Hello and welcome to La Crème Anglaise, a podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Lesage et ravie de vous avoir avec nous. Pour ce premier épisode de ma troisième saison, c'est avec quand même un peu d'émotion que je présente mon nouvel invité et son plat, parce que pendant le montage de cet épisode, notre reine Elizabeth II est disparue à l'âge de 96 ans à Balmoral, sa résidence préférée en Écosse. Mon invité Andrew est moitié écossais et il a choisi un plat du petit déjeuner que la reine a certainement apprécié de temps en temps dans ce pays souvent humide et venteux. Un plat à la fois frugal, mais le vrai comfort food du matin, le porridge, un simple bouilli d'avoine. Nous avons enregistré l'interview la veille de sa disparition et je souhaite rendre hommage à cette grande dame qui a été présente pendant toute ma vie et qui, pour moi, représente la dignité, la colonne vertébrale et le ciment de toute une nation et le Commonwealth. Quand je pense, la reine Elizabeth II était en quelque sorte comme une bonne tasse de thé ou un bol de porridge, des constants, reconfortants, appréciés par toutes les classes sociales et politiques pour leur simplicité et leur familiarité. J'ai l'impression d'avoir perdu une grande tante bien aimée, même si elle a été la reine de la Grande-Bretagne. Donc sur cette note un peu triste et solennelle, il faut rester calme et continuer. Stay calm and carry on. So, pinky up and let's get started. Mon invité Andrew se décrit comme un faux écossais, car son père était de Inverness, mais sa mère avait des origines allemandes, russes et de l'Europe de l'Est. Et en plus, il est allé à l'école en Grande-Bretagne. Installé à Paris depuis 30 ans et marié avec une Française, il s'est passionné très jeune pour la France. Après des études d'histoire en Grande-Bretagne, son professeur l'a conseillé de travailler dans le finance. Et donc, il a commencé sa carrière à Londres dans une banque française. Quelques années plus tard, on lui a proposé une poste à Paris. Aujourd'hui, il enseigne l'économie et la finance dans des écoles de commerce, mais sa passion reste toujours l'histoire. Andrew est une bibliothèque vivante de l'histoire, de l'art, de la musique et, heureusement pour moi, la cuisine. C'est lui qui fait la cuisine à la maison et je lui ai demandé d'où vient cette passion.
J'ai vu cette question, Sarah, et je me le suis posé moi-même. Donc, il n'y a aucun antécédent familial. On va parler un peu de mon père, l'attitude écossais. Les Écossais, très moralisateurs, contre l'idée de l'indulgence, du luxure, etc. On avait plutôt... la simplicité, la sobriété étant un vertu, on avait plutôt l'attitude inverse à la maison. Donc, j'ai un peu inventé tout ça de toutes pièces moi-même. J'ai commencé à cuisiner à partir du moment que je suis parti à l'université. Je pense que c'est venu... Je suis toujours intéressé par les autres cultures et j'ai une lecture de la cuisine qui est vraiment très culturelle. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, j'en sais rien, la culture du Maroc, l'histoire du Maroc, ou la culture de l'Italie, l'histoire de l'Italie, et j'essaie d'intégrer à la fois une approche sur l'histoire d'un lieu et sa manière de cuisiner, c'est ça qui me motive. Mais
c'est pour ça, d'ailleurs, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Et derrière, tout ça a commencé autour de la table été en Bretagne. Où on a commencé à avoir une discussion autour des flocons d'avoine, l'avoine, les oats et l'histoire du porridge. Est-ce que le porridge a joué un rôle important dans ton enfance et même dans ta vie aujourd'hui?
Dans l'enfance, oui, quand j'y pense. L'image du père, mettons, moi je suis né en 63, donc on parle là... Fin des années 60, début des années 70, les parents étaient beaucoup plus distants à l'époque des enfants. Et le porridge, c'est mon père qui faisait le porridge à la maison. Je pense que faire le porridge est une occupation masculine. Ne me demandez pas pourquoi. Donc c'était un moment de intimité, ce serait trop loin, mais... de chaleur humaine, d'échange avec mon père. Il y a eu d'autres moments comme ça. Quand on tombe malade, on prépare en Écosse ou ailleurs ce qu'on appelle du grog, donc eau chaude, citron, miel et une goutte de whisky. Et il y avait ça aussi, c'est systématiquement mon père qui le faisait. Et ça aussi, un moment de chaleur, un moment d'intimité avec un personnage qui était souvent un peu distant, un peu même intimidant. Dans la famille aujourd'hui, on continue à faire du porridge. Ça fait partie de la tradition qui revient chaque année à l'automne. C'est pas anecdotique dans la famille, non, c'est pas ça, mais c'est un peu ironique, on va dire. C'est nos petits moments écossais et c'est un sujet avec lequel j'échange avec avec les enfants. Je charge ma fille qui va régulièrement à Londres de nous rapporter du porridge de là-bas. Et c'est toujours un tout petit point d'ancrage de la famille par rapport avec l'Écosse, oui.
C'est intéressant que tu parles de cette chaleur avec ton père, parce que le porridge, il a aussi ce côté austère qu'on peut associer, par exemple, avec la pauvreté. Par exemple, on pense souvent à Oliver Twist. Bon, c'est du gruel, mais ça, c'est une version très diluée de porridge fait avec de l'eau. Moi, j'associe ça aussi avec le pensionnat. On associe ça avec le prison, donc, parce que c'est un aliment pas cher. C'est marrant que tu associes ça avec la chaleur de ton père, alors que pour moi, c'est plutôt un plat un peu austère.
Il y a un côté d'austérité, c'est sûr. On va parler sans doute de la recette. Donc, dans la version la plus simple, l'avoine, l'eau et un peu de sel. Mais on le prend les matins de l'automne quand il commence à faire froid. Et c'est quelque chose de chaleureux, c'est l'arrivée dans la cuisine déjà chauffée un peu avec ses débuts d'odeur du porridge. Oui, c'est vrai, c'est à la fois austère. Sur l'histoire, bien sûr, pour certains d'entre nous associés avec l'idée du pensionnat, le gruel
et les grumeaux,
bien sûr, ça c'est le porridge mal fait, hein. C'est les grumeaux dans n'importe quelle sauce. Effectivement, pour faire un bon porridge, c'est une approche un peu comme une approche pour faire une sauce, hein. Donc il faut quand même le travailler. Ça aussi, on va en parler tout à l'heure, je pense.
Mais justement, dans cette conversation cet été, moi, j'ai découvert qu'en fait, le porridge que je fais depuis des années avec le Quaker's Oats, je crois que c'est la marque qu'on trouve le plus souvent en France. Ben là, déjà, tu t'entends un grand souffle.
Oh là là.
Donc, c'est déjà j'ai compris qu'en fait, il y a différentes formes de flocons d'avoine ou de oats. Et qu'en fait, j'avais pas du tout les bons. C'est pas celles que vous utilisez en Écosse et qu'on ne peut même pas les trouver en France.
Effectivement, les paquets qu'on trouve dans les grandes surfaces en France et ailleurs, d'ailleurs, les fameux flocons d'avoine ou de Quaker. Donc, c'est une préparation qui est, je pense, inventée à la fin du 19e, début 20e, et qui consiste sans doute à écraser la graine. Et après, à la pré-cuire avec une forme de vapeur. C'est un produit, qui est déjà un peu pré-cuit, un peu processed, transformé. Ça permet de faire un porridge instantané, qui est pas si mauvais que ça. Mais bien sûr, d'un point de vue moral, parce qu'étant écossais, c'est très important. Et puriste, c'est pas du tout satisfaisant. Et je pense aussi, par rapport avec la graine concassée, le pinhead rolled oats, qu'on traduit comment
Alors, j'ai trouvé avoine et pointé.
Oui, au gruau, non?
Au gruau, oui, c'est ça.
Un mot qui me fait penser au gruel.
Oui.
Donc, c'est ça dont il s'agit. C'est vraiment la graine concassée, écrasée, mais pas trop. Et que, d'ailleurs, pour préparer, on laisse tremper dans l'eau toute une nuit. Et là, arrivé le lendemain matin... Donc, c'est une petite cérémoniale à faire les soirées d'automne avant d'aller se coucher, qui a envie de porridge le lendemain matin. On le laisse tremper et elle est prête à être cuite, mais en 3, 4, 5 minutes le lendemain matin. Donc, on n'est pas du tout dans une version instantanée qui a perdu une partie au moins de sa valeur nutritive.
Hein. Et à part la valeur nutritive, est-ce qu'il y a une vraie différence dans les deux porridges?
Oui, je pense en termes de texture, en termes de goût, on a quelque chose qui est, je saurais pas le décrire, mais qui est tout simplement un produit différent. Je pense aussi sa manière de réagir. Le porridge, une fois qu'elle est correctement cuit, on le verse dans un bol, on met un peu, pas trop, parce que sinon, moralement, ça serait pas bon, de lait autour, et le porridge forme comme une espèce, pas exactement de gâteau, mais qui commence à flotter. Mm. Donc, on a quelque chose qui tient en un seul morceau qui flotte légèrement, qu'on peut tuyer avec sa cuillère le matin si on veut jouer, c'est à mon avis pas du tout la même chose qu'un porridge instantané. Mais on essaiera pour vos auditeurs, auditrices, de trouver d'autres utilisations pour leurs flocons d'avoine que maintenant ils ou elles ne seront plus utilisés en forme de porridge.
Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisations différentes. Alors, si on commençait par l'histoire de porridge, parce qu'en fait, c'est l'ancêtre du pain. C'est quelque chose qui est universel parce qu'on le trouve dans toutes les cultures. À partir du moment où il y avait des céréales, pourquoi tu crois que le porridge est devenu si populaire et omniprésent en Écosse?
Ah, omniprésent en Écosse, l'avoine est une graine... relativement facile à cultiver, y compris dans des contrées où il pleut peut-être un peu trop, il fait pas forcément suffisamment chaud. Mm-hmm. Je pense que le même phénomène favorise l'introduction de la pomme de terre. Donc, on a, en fonction de la géographie, du climat, etc., une facilité à cultiver l'avoine, une pauvreté de la population aussi, on en a parlé ensemble, que traditionnellement en Angleterre, l'avoine qui est cultivée est utilisée comme aliment pour les animaux, tandis qu'en Écosse, c'est pour les êtres humains. Donc c'est des questions de niveau de vie, de niveau de pauvreté. Je présume et je pense qu'il y a une tradition similaire en Irlande. Je pense qu'ils ont exactement les mêmes problématiques. Ils ont exactement les mêmes traditions. Et d'ailleurs, le porridge est également très répandu aussi en Irlande. Je pensais, moi, en commençant un peu mes mêmes recherches, retrouver le résultat que le porridge était répandu autour du monde avec le diaspora écossaise. À mon avis, c'est plutôt diaspora et écossais et irlandaise. Donc, il faut pas que s'étonner que le porridge s'est exporté au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans certains morceaux de l'Empire, en Inde, on en trouve parfois dans d'autres endroits, en Afrique ou en Asie. Mais effectivement, j'ai lu aussi avec intérêt que le porridge n'est qu'une approche parmi tant d'autres de manière de préparer les céréales et que les Mayas ou les Japonais, les Chinois ont aussi, dès l'Antiquité, inventé effectivement ce qui revient à une forme de gruelle à base de graines. Donc le porridge est vraiment tout concurrent de par le monde, à la fois par l'histoire et après par le fait que les Écossais et les Irlandais se sont beaucoup exportés. Et le mot porridge apparemment étant d'origine, comme beaucoup d'éléments dans la cuisine écossaise d'ailleurs, faut pas oublier la vieille alliance, d'origine française, donc soi-disant dérivé du mot potage.
Potage, c'est ça. C'était une soupe de légumes épaissie avec des graines de céréales. Ouais. J'ai aussi trouvé une autre théorie, qu'il y avait évidemment potage, mais il y avait une bouillie qu'on appelait le pourri, qui vient de poireau, une soupe à poireau. Donc voilà, on arrive à le nom d'aujourd'hui.
Oui, potage ou porridge. Hein.
Alors, tu m'as fait découvrir aussi qu'il y a un outil spécial pour faire le porridge dont j'avais pas connaissance et je trouve ça vraiment charmant.
Ah, il faut absolument que chacun et chacune s'en procure une. Pas simplement utile pour le porridge, mais aussi pour toute forme de sauce. Donc, vous allez trouver sur Internet le fameux spertle. S-P-U-R-T-L-E. Donc, spertle. Plus ou moins comme un simple morceau de bois, un peu en forme de chardon, notre fleur nationale, avec une pointe à l'autre bout, et qui permet de tuer une sauce avec la pointe en allant réellement dans les coins. J'ai découvert et je me suis dit, c'est un peu typique, on trouve ces mots écossais, qu'on est d'accord pour quelqu'un qui est anglais, ont un côté très primitif, non? Et les Écossais, je sais que les Anglais, parfois, les trouvent un peu terrifiants par leur côté, un peu. Et on trouve ce mot spertle qui fait un peu peur comme mot. Apparemment dérivé de spatule.
Ouais, exactement.
C'est une corruption. En écossais, d'une expression qui a, en réalité, ses bases dans de latin, comme toutes nos langues. Donc ceux qui n'ont pas dans leurs outils de cuisine peuvent s'en procurer. Je présume qu'on peut en acheter sur Amazon. C'est l'outil essentiel, plutôt qu'une cuillère en bois, de s'acheter un spertle. Oui, effectivement.
Bah, je trouve déjà le nom charmant. Je ne sais pas si c'est terrifiant, mais charmant. Et puis, l'objet, il est très beau. Donc, je vais essayer de te poster une photo pour qu'on voit à quoi ça correspond. Et il paraît que, je pense que ça existe depuis le 15e siècle, et chaque personne le fabriquait le sien. Et que ça peut être plus ou moins travaillé selon ses capacités de tourner le bois, j'imagine. Et alors, il paraît qu'il faut aussi manger traditionnellement le porridge dans un bol en bois.
Ouais.
Et est-ce qu'il n'y a pas une manière qu'il faut tourner, mélanger le porridge?
Bah, il y a plusieurs superstitions, on pourrait dire. Il paraît qu'on est censé le manger debout, que j'ai trouvé quelque part.
Ouais.
Sinon, ça peut porter malheur. Mmh. Et avant tout, et je pense que c'est vrai un peu pour les sauces, il faut préparer en tuyant, en tournant, normalement que dans un seul sens. Et c'est très important de tuyer, de tourner, que dans le sens d'une aiguille. Malheur, évidemment, pour celui qui tournerait le porridge dans le sens.
Parce que peut-être ça va faire mal tourner la sauce, on aurait des grumeaux peut-être.
Oh non, pire que ça, nettement pire, c'est le diable ou la malheur qui tombe sur la maison. Et nous avons trouvé cette expression que je trouve formidable, qui est « widdershins ». Donc encore, ce sont des mots de ce qu'on appelle du « Scots English ». Donc le « Scots English », c'est pas simplement un argot ou une déformation de l'anglais tel qu'il est parlé dans le sud, c'est vraiment une autre langue. Et une autre langue avec énormément d'expressions qui sont importées de la Scandinavie, avec des liens très très évidents avec l'allemand. Accessoirement, c'est à peu près la langue qu'on parle dans une ville comme Newcastle, dans le nord de l'Écosse. Et on aurait très très bien pu imaginer un autre histoire politique, un autre pays émergé qui aurait englobé le sud et l'est de l'Écosse et le nord et l'ouest de l'Angleterre, qui aurait parlé cette même langue, ce Scots English, qui aurait eu son capitale peut-être à Édimbourg, mais peut-être pourquoi pas à Newcastle, ça aurait pu être.
Ah.
Et vous savez bien, à Newcastle, il y a un accent qui est très très fort,
oui,
qui est incompréhensible pour les gens qui le connaissent pas, où il y a énormément d'expressions et tout ça. Bien sûr, le poète national Robert Burns, quand on lit ses poèmes, on dit qu'il a un clavier qui déconne, qui a un peu comme une cascade de, entre guillemets, de fautes de frappe. C'est pas des fautes de frappe. C'est une autre langue. C'est le Scots English. Donc ça, c'est typique de celui-là. Donc ce mot widdershins, qui veut dire tourner dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Et Widdershin, j'ai trouvé hier l'origine de ce mot, Widersinn, donc pour ceux d'entre nous qui sont allemands, contre le sens.
Ah.
Donc Widdershin, c'est un mot d'allemand antique ou de suédois antique, c'est un mot qui est rentré dans la langue et qu'on utilise en Écosse.
Mais pareil, je trouve ça hyper poétique, comme le spittle, c'est des mots évocatifs de l'Écosse, enfin, d'un peu le folklore, un peu d'autrefois. Ouais, je trouve ça un peu l'époque Dickens. Et pour revenir au porridge, je pense qu'une des raisons aussi pourquoi c'est si populaire, c'est des valeurs nutritionnelles. Parce qu'il est vraiment riche en fibres, en vitamines, en calcium, en potassium de fer. C'est un superfood.
Oui, on a parlé de ce phénomène-là. Nous, avec ma femme, par exemple, si l'hiver, on prend du porridge à 8h30 du matin, on n'a absolument pas besoin à 11h d'aller chercher un Snickers. Par contre, donc on n'a pas cette hausse instantanée d'indice glycémique,
non,
dans le sang et après baisse catastrophique en milieu de matinée, on a quelque chose qui est beaucoup mieux réparti dans le temps. C'est effectivement le retour en grâce du porridge est sans doute connecté à quelques-uns de ses bénéfices pour la santé, qui, à mon avis, sont mieux si on utilise le vrai...
J'allais te dire, je pense que les bénéfices sont encore mieux quand on use le Pinhead Oatmeal.
Oui.
Alors, il y a une date très importante qui s'approche, le samedi 8 octobre 2022. C'est le championnat mondial annuel de porridge, le Golden Spurtle.
Oui.
Je pense que tu devrais participer parce que c'est ouvert à tout le monde. Hein?
Oui, c'est comme certains événements. On parle d'un championnat mondial. Ça veut dire qu'il y a 10 équipes écossaises, 2 néerlandais, 2 suédois et 2 personnes d'Angleterre. Donc, c'est un événement à part où j'ai eu très envie d'assister qui existe depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Qui sont les Jeux Olympiques du porridge, mais avec différentes catégories traditionnelles, ça veut dire eau et sel, luxe, ça veut dire eau, sel et crème, exotique, ça veut dire eau, sel et morceaux d'ananas, et ainsi de suite, je pense, je sais
bah,
pas
si...
comment...
S'il y a des auditeurs qui sont en Écosse le mois d'octobre, il faut aller à l'hôtel de ville de Carbridge, qui est dans un très joli paysage dans les Cairngorms, dans la Highlands.
Oui,
Donc,
tout
je
à fait.
pense que vraiment ça vaut le détour. Ça doit être un truc complètement.
À mon avis, ça doit être un événement assez sympathique, oui.
Et tu as parlé aussi de consistance de gâteau. Enfin, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé d'une chose que j'ai lue partout et j'avais même une amie qui disait sa grand-mère faisait ça. C'est qu'autrefois, dans les cuisines, souvent dans le buffet, il y avait ce qu'on appelait le tiroir à porridge. Et on faisait un grand marmite de porridge, par exemple, lundi. Et alors, il devrait être assez consistant, assez épais, parce qu'on le versait dans le tiroir. Et on le laissait refroidir et ça permettait au fur et à mesure, chaque jour, de couper une tranche, soit pour l'emporter, soit pour le réchauffer ou même le faire frire, un peu comme une polenta.
Oui, j'allais dire, on s'approche de la polenta, là, non? J'avoue que je l'ai jamais vu faire comme ça. Sans doute, ça doit exister. Moi, je pensais que l'Écossais qui partait en voyage, qui part en kilt, qui a donc son sporran, c'est l'espèce de pochette qu'on met devant, que le sporran permet de prendre avec soi, 5 ou 6 poignées d'avoine, que donc du coup, même au fin fond de nulle part, en voyage dans les montagnes, dans les collines, on peut s'arrêter, cuire et ainsi trouver subsistance. Mais peut-être c'est mieux de prendre un gâteau de porridge avec soi. J'avoue, j'ai jamais vu fait comme ça.
Mais c'est très
Mais
intéressant. Je me suis jamais posé la question qu'est-ce qu'il y avait dans le sparring, mais
bah
ça, c'est une très bonne. Parce que c'était comme une monnaie aussi, je pense. Ça avait
oui.
certainement de la valeur.
Bon, on parle bien du avoir du blé en français, non?
Ben voilà, c'est la même chose. Et alors, tu m'as parlé aussi de d'autres utilisations qu'on peut faire avec les flocons d'avoine qu'on va trouver facilement en France.
Oui, donc les flocons que maintenant vous allez plus utiliser pour faire votre porridge, il faut trouver le pinhead oatmeal. Non, deux utilisations. Moi, j'utilise les flocons en remplaçant de la farine pour faire des crumbles. Donc, un crumble pour faire une crumble à la pomme, par exemple, je pense, on a dû avoir un épisode sur ce sujet-là. Un tiers farine, un tiers beurre, un tiers sucre. Moi, j'ai tendance à remplacer, mettons, la moitié de la farine avec des flocons d'avoine. Et j'ai tendance à faire ça, surtout si je fais des crumbles avec des fruits d'été, style avec des prunes, avec des mirabelles. Les prunes, les mirabelles donnent énormément de jus. Et les flocons d'avoine vont absorber le jus. Et malgré tout le liquide qui sort, néanmoins donner un crumble qui reste croustillant. C'est un
Ça
peu
c'est.
le côté d'un papier buvard, le flocon d'avoine. L'autre utilisation, c'est un peu comme une chapelure. Moi, j'aime beaucoup faire des filets de maquereau. Et au lieu de faire paner dans la farine, je mets dans l'œuf de chaque côté, dans les flocons d'avoine de chaque côté, et après dans la casserole avec un peu de beurre, chauffé 5 ou 10 minutes, ça devient bien croustillant et on se retrouve avec un poisson pané aux flocons d'avoine. Donc
Ça doit être délicieux.
ça c'est pas mal celui-là aussi. Hein.
Alors, Andrew, maintenant on arrive à ton moment de faux pas, un moment où peut-être tu as mis les pieds dans un plat ou être embourbé dans un porridge, par exemple.
Oui, bah, je peux en raconter un qui est plutôt où je me suis embobiné socialement, mais c'est pas exactement culinaire. Donc, étant arrivé en France, j'avais mettons 30 ans, tout petit peu introduit par-ci, par-là, je suis invité le long week-end dans une très belle propriété à 3 heures de Paris, comme ça peut arriver. Par une jeune fille, bonne famille, qui a 30 ans, on termine le week-end et j'ai envie de lui faire un compliment en disant vraiment, tu as géré ça d'un main de maître, un jour tu feras un super maîtresse de maison. Et au lieu de sortir cette phrase-là, évidemment, ce que j'ai dit, un jour, tu feras une super femme de ménage.
Oh, excellent, excellent. Bah, écoute, Andrew, merci pour ce grand tour d'Écosse, de la culture, des porridge, oh. Vraiment des langages. C'était vraiment super intéressant. C'était un vrai plaisir de discuter de ça avec toi.
Super, merci et bravo pour le travail de la crème cette fois-ci, la crème écossaise.
Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez les recettes du vrai porridge sur mon site web avec toutes les autres recettes de mon podcast. Et pour procurer l'avoine épointée, les pinhead oats, il faudrait demander à un ami de les ramener de l'Écosse ou d'un magasin bio à Londres. N'oubliez pas de vous acheter une vraie spurtle pour tuyer non seulement le porridge, mais toutes vos sauces. Vous pouvez les trouver en ligne ou lors d'un prochain voyage en Écosse. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je vous dis cheerio and see you soon.